France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Israël dit avoir détruit le quartier général de la sécurité intérieure iranienne à Téhéran. Nous ferons le point sur cette sixième journée de confrontation militaire entre Israël et l'Iran avec Étienne Monin. Les États-Unis vont-ils eux aussi frapper l'Iran ? Donald Trump entretient le flou, peut-être, peut-être pas. Nous irons à Washington. Les départements français croulent sous les dépenses sociales et dénoncent le désengagement de l'État. Ils ont baptisé le 18 juin jour du dépassement, seuil symbolique à partir duquel ils assument seuls le financement des grandes prestations sociales nationales. Explication d'Annabelle Grelier. Et puis, le Rassemblement national est dans l'embarras après que des médias ont pointé les propos litigieux de certains de ses députés. Nous nous pencherons avec Antoine Maret sur le cas de Caroline Parmentier, une proche de Marine Le Pen. Les civils iraniens et israéliens ne doivent pas payer le prix d'une guerre irresponsable, s'inquiète ce soir l'ONG Amnesty International. Au sixième jour de guerre entre Israël et l'Iran, les opérations militaires se poursuivent. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir.
Et la capitale iranienne, Téhéran, a été de nouveau frappée.
Oui, des journalistes sur place font état d'un énorme mur de fumée blanche dans le sud-est de la ville. De puissantes explosions ont aussi été entendues dans l'après-midi dans le centre, dans les quartiers est et nord de la capitale. Le Croissant Rouge sur place affirme qu'une frappe a eu lieu à proximité de ses locaux. L'armée israélienne fait état de cibles militaires. Le ministre de la Défense israélien affirme que le QG de la sécurité intérieure a été détruit. Par l'aviation. Dans la nuit, 50 avions avaient survolé Téhéran. Deux sites de production de pièces pour des centrifugeuses ont été ciblés sur un total de 20 objectifs. Et toujours d'après l'armée israélienne, trois hélicoptères de combat ont été détruits à Kermanshah. De son côté, l'Iran a lancé deux salves de missiles. Depuis deux jours, l'intensité de la réponse iranienne a diminué. Aucun blessé n'a été signalé sur le sol israélien cette nuit. Un drone a été abattu dans la région d'Ispahan. Le guide suprême a menacé les États-Unis de conséquences irréparables en cas d'intervention. Il affirme que l'Iran ne se rendra jamais. De sources israéliennes, 400 missiles balistiques ont été tirés depuis le début de l'opération militaire. 40 sites israéliens ont été touchés. Tel Aviv a annoncé qu'elle allait assouplir les restrictions de sécurité pour une partie du pays.
Vous l'avez dit, Étienne, l'ayatollah Ali Khamenei a exclu aujourd'hui toute reddition de son pays, répondant à Donald Trump qui menace d'entrer dans le conflit. Le dirigeant iranien a mis en garde les États-Unis contre toute participation directe à cette confrontation militaire, Marie-Pierre Véraud.
C'est comme un duel à distance qu'instaure le guide suprême. Coiffé de son habituel turban noir, un tissu noir sur les épaules, il s'adresse face caméra à Donald Trump pour le mettre en garde contre toute intervention aux côtés d'Israël.
Bien sûr, les Américains et ceux qui connaissent la politique de cette région savent bien que l'implication des États-Unis dans cette affaire se ferait entièrement à leur détriment. Les dommages qu'ils subiraient en conséquence dépasseraient largement tout préjudice qui pourrait éventuellement être infligé à l'Iran.
Les États-Unis subiraient des dommages irréparables, ajoute-t-il. On pense bien sûr aux bases militaires américaines dans la région, notamment dans le Golfe. Il y a le quartier général de la 5e flotte à Bahreïn. La base militaire américaine en Irak est également à portée de missiles iraniens. L'Irak qui abrite des milices chiites pro-iraniennes. L'ayatollah Ali Khamenei qui répond aussi sèchement au président américain. Donald Trump avait appelé hier l'Iran à une capitulation sans condition. Un message en lettres capitales sur son réseau social. La nation iranienne, martèle le guide suprême, ne se rendra pas. Elle reste unie pour lutter contre cette guerre imposée. Tout comme elle s'élèvera contre toute paix imposée.
Si l'on en croit le discours d'Ali Khamenei, l'Iran campe sur ses positions, mais Donald Trump donne lui une toute autre version. Nous sommes en ligne avec Benjamin Ely aux États-Unis. Bonsoir Benjamin.
Bonsoir.
Vous avez suivi les dernières déclarations du président américain qui souffle le chaud et le froid.
Oui, le doute et la menace. Voici ce que dit le président américain. Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Donald Trump qui affirme que l'Iran est entré en contact avec la Maison Blanche, allant jusqu'à proposer, selon lui, d'envoyer une délégation à Washington, ce qu'il qualifie de courageux, mais il ajoute que c'est très tard pour discuter. Il y a une grosse différence entre maintenant et il y a une semaine. Et il répète que sa patience est à bout. Donald Trump, fidèle à sa méthode, parlait fort, menacé pour obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, pour obtenir aussi, comme il écrivait hier en majuscule sur son réseau social, une capitulation sans condition du régime.
Et les États-Unis doivent-ils intervenir en Iran ou pas? La question, Benjamin, entraîne des frictions au sein du clan de Donald Trump.
Oui, rappelez-vous, il avait promis à la foule de ses partisans à casquette rouge pendant toute la campagne présidentielle. Il l'a répété le jour de son investiture. Donald Trump se voyait comme un faiseur de paix, un unificateur, ce président américain qui ne serait jamais un va-t-en-guerre. Et des personnalités influentes de la sphère MAGA lui rappellent aujourd'hui cet engagement à l'image de Tucker Carlson, éditorialiste ultra-conservateur, ex-étoile de Fox News, reçu dans le podcast du sulfureux Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump pendant la campagne de 2016. Tucker Carlson qui explique clairement qu'il ne veut pas que les États-Unis soient écrasés dans une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Je veux dire à Donald Trump, vous êtes la seule personne à pouvoir apporter la paix. Vous devriez continuer à essayer de le faire. Réponse cinglante de Donald Trump sur son réseau social. Quelqu'un pourrait-il expliquer à ce fou de Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire? Mais l'élu Marjorie Taylor Greene, pourtant une trumpiste radicale, représentante républicaine de Géorgie, vole au secours de Tucker Carlson. Dans un long message sur X, elle écrit « Nous en avons assez des guerres étrangères, nous ne voulons pas être obligés de payer pour tout ça. L'Amérique, d'abord », elle le répète trois fois. C'est l'autre slogan de Donald Trump.
Merci Benjamin Ely. Trump et l'Iran, quelle stratégie? Ce sera la première question du soir posée par Quentin Lafay à 18h20. Est-il coupable d'infractions terroristes ou victime de répression politique? Un rappeur nord-irlandais a comparu aujourd'hui à Londres, accusé d'avoir arboré un drapeau du Hezbollah pendant un concert. Le trio de rap gaélique s'est fait connaître en 2017, en partie pour sa musique, en partie pour ses prises de position politique. Liam O'Hanna comparaissait ce matin donc pour apologie du terrorisme. Précision à Londres d'Emeline Vin.
Accueilli par des dizaines de fans devant la haute cour de Londres, Liam O'Hanna a comparu drapé dans un keffieh palestinien. Connu sous le nom de Moshara, à la scène, il assistait à une audience préliminaire et a été relâché sans caution avant son véritable procès le 20 août. Le rappeur nord-irlandais est poursuivi pour avoir brandi un drapeau du Hezbollah lors d'un concert dans la capitale britannique en novembre dernier. Les autorités considèrent le Hezbollah comme une organisation terroriste qu'il est donc interdit de soutenir publiquement. Le groupe NICAP, fervent défenseur de la cause palestinienne, assure que le drapeau avait été lancé sur la scène et qu'il ne défend pas l'organisation libanaise. Le juge assure que l'affaire ne porte pas sur le soutien de Moshara à la Palestine et qu'il s'agit de deux sujets bien distincts. De son côté, le Nord-Irlandais promet qu'il se défendra jusqu'au bout de cette soi-disant offense. NICAP, dont l'histoire a été retracée dans un film éponyme l'année dernière avec Michael Fassbender, s'est fait connaître en partie pour ses positions provocatrices et anti-système qui ont déjà conduit plusieurs salles à annuler leurs concerts.
Le chanteur a reçu le soutien de grands noms de la musique qui dénoncent une répression politique et une tentative concertée de censure et de déprogrammation. Le président de département de France, François Sauvadet, alerte. Aujourd'hui, 18 juin, c'est le jour du dépassement pour les départements. À partir de cette date, les prestations sociales comme le RSA, l'aide aux personnes âgées ou l'aide aux personnes en situation de handicap, qui relèvent de la solidarité nationale, reposent exclusivement sur les départements. Comme ils sont confrontés à une augmentation en flèche de leurs dépenses sociales, alors que les compensations de l'État diminuent, eh bien, ils ne peuvent plus financer les nouvelles décisions sociales prises par l'État. Et au rythme où vont les choses, Annabelle Grelier, les départements disent ne plus avoir de capacité d'investissement dans les écoles ou les routes.
Pour exemple, en 2009, le RSA versé par les départements était compensé par des dotations de l'État à 88%. C'est aujourd'hui à peine plus de 50%. RSA, aide à l'enfance, aide aux personnes âgées, handicap, un désengagement de l'État qui pèse toujours plus lourd sur le budget des départements. Un tiers d'entre eux disent être dans le rouge quand d'autres doivent renoncer à des investissements, comme le déplore Jean-Luc Glaise, le président du département de la Gironde.
Très clairement, en Gironde, nous avions prévu 14 collèges dans le cadre du plan collège entre 2017 et 2025. Nous n'en construirons que 12. Nous sommes en train d'augmenter la restauration scolaire dans les collèges de manière à récupérer un petit peu de recettes, donc 50 centimes d'euros de plus à faire payer aux familles. Nous sommes en train de revoir aussi les modalités des transports des élèves en situation de handicap vers leur établissement scolaire. C'est aussi sur la protection de l'enfance. Nous sommes en train de privilégier la prévention et beaucoup moins le placement en institution. D'abord parce que c'est souvent dans l'intérêt du parcours des enfants, mais aussi parce que le coût est moins élevé pour le département. Donc ce sont plein de choix qui sont des choix extrêmement difficiles et des renoncements qu'il faut faire. C'est pour ça que nous sommes en colère et c'est pour ça que nous voulons dire à nos populations, c'est vous qui allez être impacté très directement, c'est vous dans les associations qui allez être impacté directement, c'est vous dans le médico-social qui allez être impacté directement, et ce n'est pas juste la question des départements, ce sont tous ces impacts sur la nation solidaire aujourd'hui qui sont en train d'être produits via ce que l'État ne nous verse plus.
En réponse à la situation jugée critique de certains départements, le gouvernement leur a octroyé, dans le cadre de la loi de finances pour 2025, la possibilité d'augmenter les frais de notaire, ce qui est loin de couvrir les besoins sur les départements qui réclament une compensation intégrale de 3 allocations de solidarité d'ici 2030.
Annabelle Grelier. Le Rassemblement national très embarrassé par les écrits d'une députée RN exhumée par Mediapart. Caroline Parmentier, ancienne journaliste à présent, a rejoint l'équipe de Marine Le Pen en 2018. Le site d'investigation a retrouvé plusieurs de ses articles au contenu raciste, antisémite, homophobe et anti-avortement. Nous retrouvons Antoine Marette à l'Assemblée nationale. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Aurélie.
Caroline Parmentier est l'une des très proches de Marine Le Pen.
Oui, elles se connaissent depuis la fin des années 90. Et lors de la présidentielle de 2022, Caroline Parmentier est devenue conseillère presse de Marine Le Pen, chargée d'adoucir l'image du RN et de sa candidate, de pacifier les relations avec les journalistes avec une certaine efficacité. Sauf qu'avant, juste avant de s'occuper de l'image du RN, Caroline Parmentier était journaliste à présent et la ligne éditoriale de ce quotidien, disparu il y a 3 ans, était idéologiquement très marquée, catholique traditionnaliste, anti-avortement, pétainiste. Caroline Parmentier n'a pas été une pigiste occasionnelle dans ce journal. Elle y a travaillé 31 ans, elle y a même été rédactrice en chef. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les écrits exhumés par Mediapart sont fidèles à la ligne éditoriale de présent. Caroline Parmentier y évoque notamment, liste non exhaustive, je cite, « les lobbies juifs et LGBT, les voyous ethniques désœuvrés, les bohémiens galeux à propos des gens du voyage ». Elle s'en prend à Simone Veil, je cite, « la grosse, celle de la loi qui porte son nom et qui génocide 220 000 petits innocents par an ». Ou encore à propos du film « La vie d'Adèle » d'Abdelatif Kechiche, je cite « une saloperie ambiante qui normalise l'homosexualité ». Au RN, on ne se bouscule pas pour commenter les écrits de Caroline Parmentier. Celle qui est devenue députée RN en 2022 ne répond que par SMS. Elle dénonce des contresens, des citations sorties de leur contexte et précise qu'elle n'a fait l'objet que d'une seule condamnation suite à une plainte de la LICRA. Et elle ajoute que ses écrits sont anciens. Mais, nouvelle révélation de Mediapart, le profil Facebook de Caroline Parmentier contient également des propos embarrassants et certains assez récents. En 2018, par exemple, elle affichait ouvertement son soutien au maréchal Pétain.
Antoine Marette à l'Assemblée nationale. Comment réduire les émissions de CO2 dans l'aviation? Le ministre de l'économie, Éric Lombard, et Total Énergie viennent de signer un accord de filière afin d'augmenter les capacités de production de biocarburants en France. C'est ainsi que les sites de Lamed, dans les Bouches-du-Rhône, et de Grandpuy en Seine-et-Marne doivent doubler leur production dès l'an prochain. Il faut dire qu'il y a urgence. La réglementation européenne impose désormais des taux d'incorporation de biocarburants de plus en plus importants à bord des avions pour les prochaines années. Mais leur prix reste encore très élevé pour les compagnies aériennes. Les constructeurs et les équipementiers aéronautiques doivent donc accélérer leur développement, Hakim Kasmi.
Actuellement, les avions d'Airbus et de Boeing sont homologués pour utiliser jusqu'à 50% de biocarburant durant un vol. Mais les constructeurs et les équipementiers espèrent bien atteindre prochainement les 100%, souligne Eric Dalbiès, directeur de la recherche et des technologies chez le motoriste Safran.
Notre objectif, c'est de trouver très rapidement, cette année, une formulation de carburant la plus adaptée possible au matériel qui existe aujourd'hui, de façon à ce que nous puissions la faire certifier par l'autorité mondiale qui se charge de la certification des carburants, qui s'appelle l'ASTM. Et cette certification au niveau mondial nous permettra de faire lever cette limite de 50% de mélange qui aujourd'hui s'applique à l'autorisation d'utiliser ces carburants sur les matériels existants.
Sauf que pour l'instant, les compagnies aériennes n'utilisent que 2% de biocarburant, conformément à la réglementation européenne. À cela, il faut aussi ajouter des prix élevés. Ils sont 3 à 4 fois plus chers que le kérosène classique. Vient ensuite les problèmes de disponibilité, d'où l'accord signé aujourd'hui entre Bercy et Total Energy, comme nous l'explique Julien Manès, en charge des carburants durables chez Airbus.
En 2024, l'industrie a fabriqué 1 million de tonnes de SAF et consommé 1 million de tonnes de SAF. Et c'est à mettre en regard avec 300 millions de tonnes qui sont consommées chaque année par l'industrie du transport aérien au niveau du monde. Donc vous voyez, on est vraiment au tout début, les balbutiements de cette industrie de production. Et donc il est très important que tout le monde se retrousse les manches, y compris les collègues de Total Energy et Alamed, pour fabriquer plus de carburant et atteindre les objectifs réglementaires de 2% en 2025. Qui ont été établis par l'Union européenne notamment.
Enfin, notons que l'aviation représente entre 2,5 et 3% des émissions de CO2 dans le monde.
Hakim Kasmi au salon de l'aéronautique et du spatial du Bourget avec les moyens techniques de Sandrine Malon. 3 semaines après le verdict du procès, Le Squarnec, ancien chirurgien condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur près de 300 personnes, un collectif de victimes s'est rendu ce matin au ministère de la Santé. Il réclame des mesures concrètes pour tirer des leçons de cette affaire qui a mis en évidence les dysfonctionnements dans le secteur médical, mais aussi judiciaire et institutionnel face aux violences sexuelles. À l'issue de l'entrevue avec le ministre de la Santé, Yannick Neuder, Manon Lemoine, porte-parole du collectif, se dit plutôt satisfaite.
On est revenu sur l'accompagnement cité par M. Darmanin qui expliquait en hémicycle le 27 mai dernier qu'un accompagnement avant, pendant et après le procès avait été mis en place. On a expliqué que ce n'était pas la réalité des faits, que des victimes étaient encore en détresse aujourd'hui, que l'après-procès n'avait pas été pensé et qu'il était urgent d'agir et qu'il n'était pas trop tard pour agir auprès de l'ensemble des victimes de ce dossier pour nous prendre en charge, nous accompagner dans notre construction. Ça a été entendu. On nous a promis une prise en charge des victimes avant la trêve estivale du gouvernement, de l'ensemble des victimes, et un comité de suivi interministériel dès la rentrée avec le collectif. Maintenant, seuls des actes concrets et des changements concrets sociétaux nous satisferont. Ce qui nous paraît le plus important, c'est de continuer à travailler avec les députés. On a la commission des affaires sociales et la commission des lois qui nous reçoit le 1er juillet. Les députés ont été les premiers à nous tendre la main dans ce dossier. Donc l'objectif, c'est d'avancer avec eux sur la construction d'une réflexion globale sur cette affaire.
Propos recueillis par Florence Sturm. Le CHU de Rennes est condamné à verser plus de 2 500 000 euros après une erreur médicale. Elle concerne un jeune homme victime au moment de sa naissance au CHU en 1999 d'un manque d'oxygène ayant causé de très graves séquelles handicapantes corporelles et mentales. La responsabilité de l'hôpital avait été reconnue en 2006 par le tribunal administratif, mais pour obtenir une indemnisation définitive, les parents ont dû attendre que l'état de santé de leur enfant soit stable. Emmaüs, Foodwatch ou encore Action contre la faim, 87 organisations interpellent le gouvernement dans une lettre ouverte. Le collectif dénonce le retard et l'insuffisance de la stratégie nationale sur l'alimentation, le climat et la santé des Français, présentée en avril dernier. Un plan pourtant prometteur, attendu depuis 2 ans par les différentes associations de consommateurs. Mais pour le responsable alimentation au réseau Action Climat, Benoît Granier, le plan manque d'ambition.
La stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat propose pas de mesures qui sont choquantes ou qui ont des effets négatifs. D'ailleurs, cette stratégie pose des constats et certains objectifs qui sont très pertinents. Le problème, c'est plutôt l'absence de mesures vraiment impactantes. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que la littérature scientifique démontre que les politiques qui sont purement incitatives ou qui laissent les distributeurs ou les entreprises prendre des engagements volontaires, la littérature scientifique montre que ceci ne marche pas. Donc ça passe déjà par une interdiction de la publicité et du marketing pour les produits trop gras, trop sucrés et trop salés qui ciblent les enfants. Ça passe aussi par la mise en place de davantage de transparence sur les prix pratiqués par les distributeurs et un encadrement des marges pour éviter qu'il y ait plus de marges qui soient réalisées sur les produits sains et les produits durables. Et donc, ça passe aussi par davantage de viande durable produite en France pour réduire aussi les importations de viande, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que 30% de la viande consommée en France est de la viande qui est importée.
Benoît Granier du réseau Action Climat, joint par Léo Segura. 5 enseignes de la grande distribution ont elles aussi écrit au gouvernement. Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché et Coopérative U se disent prêtes à faire des efforts pour mettre en avant et offrir des promotions pour les produits les plus favorables à la santé et l'environnement. Mais elles demandent que soient fixées des règles du jeu communes, notamment avec la mise en place d'un affichage l'étiquetage environnemental sur les produits alimentaires, ce qui suppose au préalable de définir ce que l'on considère comme des produits sains et durables. La météo, encore un grand soleil demain sur tout le territoire, quelques averses parfois orageuses sur le relief des Alpes du Sud et de la Corse. Les minimales seront comprises entre 12 et 22 degrés du nord au sud. L'après-midi, le thermomètre affichera 26 à 35 degrés, jusqu'à 36 ou 37 sur la Nouvelle-Aquitaine et autour de la Méditerranée.